Cette émission vous est présentée par le laboratoire TerraScience, expert en compléments nutritionnels et recommandé par les professionnels de santé depuis plus de 25 ans.
Objectif, physionutrition. Jacques Bassier sur Nutri Radio.
Bonjour docteur.
Bonjour jeune homme.
Le jeune homme, oh là là, j'aime bien. Vous pouvez répéter, on va la refaire, attendez, on la refait.
Objectif, physionutrition. Jacques Bassier sur Nutri Radio.
Bonjour docteur.
Bonjour jeune homme.
Ah, j'aime bien, allez, on la refait. Non, je plaisante. Je plaisante, un qui ne s'intéresse plus. Il ne s'arrête plus.
Ah, t'es un jeune homme pour moi.
Jeune homme. Oh là là. À l'époque, ça, vous savez quoi, je pense qu'on est tous passés par là. Il y a une époque où ça nous énerve. Vous savez, particulièrement quand on est très jeune et qu'on dit gamin. Qu'est-ce que ça m'énervait quand j'avais 15 ans, je me prenais pour un homme. Il commence à gamin. Ouais. En fait, là, maintenant, jeune homme, gamin. Mais j'adore. Heureusement que vous êtes
moi,
là.
Moi, je fais ça avec les patientes et les patientes quand elles ont un certain âge comme ça. Je dis, mademoiselle, c'est à vous. Et là, je les vois sourire et
ah,
tout.
Ah, ben oui, ça fait
le
plaisir.
Le visage s'épanouir. Ben voilà, c'est gentil, c'est tout mignon.
Ça mange pas de pain, ça fait
exactement
plaisir. On s'attaque et vous êtes penché sur les hormones masculines. Sur, voilà, on a fait le cycle féminin il y a quelques temps. Maintenant, c'est l'homme. Autour de l'homme, on équilibre un petit peu. Les hormones de l'homme, c'était la semaine dernière, émission à retrouver en podcast d'ailleurs dès la fin de cette émission. Si vous allez sur nutriradio.fr dans Objectif Physio Nutrition, vous avez tous les podcasts, mais pas que, puisqu'ils sont également sur toutes les plateformes de streaming audio, Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc. Aujourd'hui, on parle de l'hypertrophie bénigne de la prostate avec vous, docteur. Alors, ça sert à quoi la prostate et ça marche comment ?
Oh, ça sert à rien, ça embête l'homme en vieillissant. Non, c'est pas vrai, bien sûr. C'est présent, c'est que ça marche et c'est que ça sert, pardon. Ben, c'est situé, sous ce qu'on dit, c'est situé dans le cas entre le dans, au carrefour des, du système des voies urinaires et génitales. Donc c'est sous la vessie, c'est entour l'urètre et l'excrétion donc d'urine. Et c'est une glande, donc il y a des sécrétions prostatiques et son fonctionnement normal la place à la fois au centre du système hormonal par son métabolisme notamment de la testostérone. Elle participe au métabolisme de la testostérone, des voies urinaires et sexuelles, parce qu'il y a une production, elle participe à la production du sperme aussi. Donc, c'est une glande qui, si on doit résumer, donc, participe au fonctionnement de la testostérone et à la spermatogénèse, et donc régule un petit peu, de par sa localisation, les voies urinaires. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est une petite boule, là, comme ça, de 30-40 grammes, qui, malheureusement, des fois, va poser quelques petits soucis. Alors, cette petite boule, elle est pas homogène. Elle a ce qu'on appelle un stroma, c'est la partie centrale de, c'est comme c'est comme un abricot. Il faut comparer ça comme un abricot avec un tuyau qui passe au milieu, qui est l'urètre, qui va donc, par lequel on va émettre l'urine. Et donc, du coup, cet abricot a une partie centrale, comme un noyau, pareil, qu'on appelle le stroma. Et une partie périphérique, l'épithélium. Et c'est le stroma, principalement, la partie centrale, qui va s'hypertrophier, qui va grossir quand on parle d'hypertrophie bénigne de la prostate. Ce n'est pas un cancer, c'est ces cellules qui vont grossir, et elles vont grossir sous l'action de molécules qui sont des molécules de croissance, qui sont sous la dépendance de la testostérone, des androgènes justement, enfin notamment la dihydrotestostérone. La particularité, la semaine dernière, je vous avais parlé des équilibres hormonaux, ben ces trois hormones, le testostérone, œstrogène et dihydrotestostérone, se retrouvent au niveau de la prostate. Et il y en a deux qui ont un rôle plutôt hypertrophiant du stroma, de la partie centrale, c'est la dihydrotestostérone, et c'est l'œstrogène. La testostérone n'a pas ce rôle-là véritablement. Et c'est sous la dépendance de la dihydrotestostérone qu'on va accentuer des facteurs de croissance. On appelle ça des TGF, des fibroblast growth factor, des insulin growth factor, enfin différentes choses comme ça, qui vont participer au grossissement quand c'est trop stimulé sous l'action de la DHT. De ce stroma de la prostate. Et il y a d'autres choses qui vont intervenir, qui sont intéressantes. Donc, comme je vous disais, les œstrogènes. Et là, on avait vu chez les dames, il y a deux types de récepteurs, alpha et bêta. Ben, les alpha, les œstrogènes qui vont aller sur les alpha vont proliférer aussi, accentuer la prolifération. Et ceux qui vont, les bêta récepteurs vont plutôt être antiproliférateurs. Donc, c'est un équilibre entre les deux. Et deux choses aussi importantes chez l'homme, c'est la vitamine A ou les vitamines A, les rétinoïdes, et la vitamine D, qui ont plutôt un rôle justement de modulateur de ces facteurs de croissance. Donc, si vous avez bien suivi, si j'ai bien expliqué, on a cette testostérone qui se transforme en dihydro testostérone ou en œstrogène, qui sont plutôt des facteurs de croissance. Et on a de la vitamine A et de la vitamine D qui vont essayer de moduler ces facteurs de croissance. Et c'est cet équilibre-là qui va faire qu'il y aura hypertrophie ou pas.
Très bien, on va marquer.
C'est clair.
C'est clair, c'est net,
oh là là,
c'est clair comme,
moi,
comme le droche, comme dirait quelqu'un que je connais. On marque une toute petite pause et on se retrouve juste après ceci.
Le laboratoire TerraScience, conseillé par les professionnels de santé depuis plus de 25 ans, conjugue rigueur scientifique et innovation pour vous proposer des compléments nutritionnels naturels et performants. Choisissez TerraScience pour une santé optimale avec la garantie d'une expertise et d'une qualité inégalée. TerraScience, vivre le plus longtemps possible en bonne santé.
Objectif, physionutrition. Jacques Bassier sur Nutri Radio.
Le docteur Jacques Bassier sur Nutri Radio chaque semaine, le jeudi, voilà, pour vous accompagner dans la matinée entre 10h et 11h. Il est là, il est présent et on nous parle aujourd'hui de l'hypertrophie bénigne de la prostate. On avait compris à quoi servait la prostate, hein, et voilà, comment elle marchait. Maintenant, on peut se poser la question, à quoi est due cette hypertrophie ?
Eh ben, disons déjà, elle est fréquente parce que quand on regarde un petit peu les chiffres, il y a une incidence histologique, c'est-à-dire que quand on fait les analyses de la prostate, on se rend compte que déjà 20% des gens autour de 40 ans ont des signes d'hypertrophie de la prostate, histologique en tout cas, donc cette hypertrophie, même si cliniquement ils n'en souffrent pas encore, et que ça représente quand même 70% des gens à partir de 60 ans. C'est-à-dire qu'à partir de 60 ans, histologiquement, c'est-à-dire quand on analyse la prostate, on voit une hypertrophie déjà qui est présente. Donc après, il va pouvoir y avoir des symptômes qui vont arriver, plus ou moins, mais déjà, histologiquement, on voit ça. Alors c'est dû à quoi ? Pour répondre à ta question, ben, on sait des anomalies locales du système nerveux autonome, ce qu'on appelle le tonus adrénergique. Donc, il y a un tonus alpha 1 adrénergique qui est un peu trop important et donc, du coup, on a des médicaments, on a en allopathie des médicaments qui vont essayer de diminuer ce tonus, mais le problème, c'est que ça diminue tous les tonus. Donc, il y a quelques effets secondaires, notamment au niveau de l'érection, par exemple. Donc, c'est des médicaments c'est des vieux médicaments qui sont toujours utilisés, mais qui ont des effets secondaires pas toujours sympathiques. Il y a une dérégulation endocrine de la prostate, c'est-à-dire que cet équilibre entre les hormones dont on a parlé, testostérone, œstrogène et dihydrotestostérone, est pas très très bon, et c'est plutôt en faveur de l'œstrogène et de la dihydrotestostérone qui sont hypertrophiants, donc c'est ceux-là qui vont gagner et qui vont faire grossir. Et on sait qu'aussi il y a des interactions entre la partie centrale et la partie périphérique, entre le stroma et l'épithélium, avec notamment des réactions inflammatoires. Et il y a donc une inflammation chronique qui est présente. Donc, quand on a dit ça, ben on voit quelles sont les thérapeutiques qu'on va pouvoir mettre en place. On va essayer de baisser le tonus, de rééquilibrer les hormones, notamment modifier ce rapport œstrogène-testostérone, par exemple, ou dihydrotestostérone. Et on va surtout essayer de diminuer la fabrication de la dihydrotestostérone en administrant, en donnant ce qu'on appelle des inhibiteurs de la 5-alpha-réductase. C'est-à-dire que c'est des inhibiteurs de l'enzyme qui fait transformer testostérone en dihydrotestostérone. Et voilà, et on sait que quand on fait ça, on a des médicaments qui font baisser de 20 à 30% environ le volume de la prostate quand on bloque cette 5-alpha réductase. Donc du coup, on va de nouveau diminuer cette hypertrophie de la prostate, on va la diminuer. Donc voilà un petit peu à quoi c'est dû. Alors, il y a des facteurs de risque génétiques, parce qu'on sait qu'il y a des familles de gens qui vont avoir plus facilement une hypertrophie de la prostate. Et il y a aussi des facteurs environnementaux, comme par exemple des gens qui ont fait des infections à chlamydié avec une prostatite chronique, peut donner un peu plus le risque d'avoir cette hypertrophie par l'inflammation qui est présente. Mais c'est surtout les hormones, c'est ce côté génétique, comment je fabrique mes hormones et comment je transforme ma testostérone qui va donner un peu la sentence de je vais vers l'hypertrophie ou pas.
En tout cas, vous avez dit 70% des personnes à partir de 60 ans, autant dire qu'il y a quelques rescapés.
Voilà, ça veut dire, mais surtout, c'est 70%, quand je disais, c'est l'incidence histologique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cliniquement, automatiquement, une souffrance pour 70% des gens au-delà de 60 ans. Mais déjà, ça veut dire que la prostate, elle n'est pas tout à fait normale. Elle a déjà des signes d'hypertrophie ou un début. Et ensuite, dans ces 70%, il y a déjà des gens, bien sûr, qui souffrent de symptômes de cette hypertrophie avec des gènes, bien sûr.
Alors justement, vous dites qu'ils souffrent, c'est quoi les signes, quels sont les signes de l'hypertrophie de la prostate et les symptômes ?
Ben, c'est de par l'anatomie, cet abricot là, comme ça, qui entoure l'urètre, va donner principalement des signes au niveau du pipi, de l'appareil urinaire. Donc il y a des difficultés à vider la vessie, ça fait un obstacle, ce qu'on appelle une dysurie, qui peut donner des mictions aussi douloureuses associées à des sensations de brûlure, et pourtant il n'y a pas d'infection urinaire. Donc du coup, c'est comme une lutte, cette hypertrophie vient serrer l'urètre et l'émission d'urine se fait difficilement, difficulté à vider la vessie. Il faut pousser, il y a un effort de poussée abdominale pour vider et lutter contre cet obstacle-là. Donc du coup, il va falloir, alors que le jet part normalement quand on est jeune, ben là, c'est le monsieur qui reste un peu plus longtemps à l'urinoir parce que il a du mal à faire pipi à vitesse grand V. Il y a une diminution du délai entre deux mictions, ce qu'on appelle une polacurie diurne, c'est une augmentation de la fréquence des mictions. Comme la miction n'est pas totale, il reste toujours un petit peu d'urine dans la vessie parce qu'on n'arrive pas à tout vidanger, ben on y va beaucoup plus fréquemment, on a beaucoup plus envie dans la journée. Donc, quand on commence à avoir cette fréquence qui augmente dans la journée ou des levées nocturnes, parce que cette fréquence, elle augmente aussi dans la nuit. Normalement, la nuit, quand tout va bien, on fait pipi avant et on fait pipi en se levant. Et bien, certains se lèvent une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. On appelle ça des polacuries nocturnes parce que, toujours pareil, il y a une faible émission d'urine et donc, du coup, il faut le faire en plusieurs fois. Et il y a aussi des mictions impérieuses, c'est-à-dire qu'il y a une envie pressante et il faut vite trouver un endroit pour aller faire pipi, sinon on le fait sur soi. Et ensuite, on a un examen, c'est l'échographie. Souvent, il y a le toucher rectal pour voir si la prostate est grosse, mais surtout, c'est l'échographie qui va nous montrer que bien, il y a bien sûr un volume résiduel post-mictionnel. C'est-à-dire qu'on fait faire une échographie de la prostate, on mesure le volume, la vessie pleine, on demande aux gens d'aller faire pipi et on leur refait un coup d'échographie pour vérifier. On se rend compte qu'il y a encore de l'urine dans la vessie alors qu'ils sont allés faire pipi. Donc voilà, ils ne vident pas complètement. Et ça, c'est le diagnostic échographique du volume de la prostate et du résidu vésical. Et plus le résidu vésical est important, ben plus ça veut dire que l'obstacle est important. Donc vous voyez, c'est surtout des symptômes urinaires. Donc avec cet effort de poussée, cette difficulté à vider la vessie, ces mictions rapprochées diurnes et nocturnes, et ces mictions impérieuses, je ne peux pas me retenir.
Très bien. On marque une dernière pause. Et après, ce qui est intéressant, reste avec nous, c'est qu'on va savoir ce que l'on peut faire avec la physionutrition, parce que, juste sans révéler pour l'instant le contenu de la suite, cher docteur, mais est-ce qu'il y a des solutions en physionutrition?
Oui, il y a des solutions, parce que vous verrez, il y a des solutions connues depuis l'Antiquité, avec des produits utilisés depuis l'Antiquité. On avait remarqué que ça marchait sur ces petits problèmes-là. Et donc, bien sûr, les laboratoires ont conçu des produits, des compléments nutritionnels. Et après, il y a une partie hygiène de vie non négligeable quand même aussi.
Très bien, eh bien, on marque une pause et on revient dans un instant pour le détail.
Objectif, physionutrition. Jacques Bassier sur Nutri Radio.
On parle de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Je ne sais pas pourquoi j'ai du mal à dire prostate, c'est simple, pourtant dingue.
Ouais.
Alors, ça dépend parfois, vous savez, bon, on fourche.
Chacun a ses problèmes. Si c'est que celui-là, ton problème, c'est pas grave.
Oui, c'est vrai, je prends. Hein, finalement, je prends. Alors, une fois qu'on a bien analysé ce qu'était l'hypertrophie bénigne de la prostate, que l'on a vu ses symptômes, quelles sont maintenant les solutions et quelle est l'approche physio-nutritionnelle pour essayer de l'enrayer?
Tout d'abord, comme toujours, c'est l'hygiène de vie. Il y a dans notre alimentation quand même des facteurs protecteurs, parce qu'on a vu que c'était surtout donc l'inflammation et l'hypertrophie due à cet équilibre hormonal, mais il y a des petites choses peut faire, notamment sur l'inflammation, c'est que les oméga-3, ce qu'on appelle donc l'EPA DHA, donc l'EPA principalement contenu dans les poissons gras comme la sardine, le maquereau, le saumon, comme la truite saumonée, comme le flétan, comme des poissons gras riches en oméga-3, sont tout à fait intéressants. Donc toujours au moins deux fois dans la semaine, si on pouvait consommer un poisson gras, ça serait tout à fait bien. Et après, on a vu qu'il y avait des facteurs de croissance. Je vous ai parlé de fibroblast growth factor ou IGF-1, insuline growth factor, insuline growth factor. Ben, insuline growth factor, c'est comme l'insuline et ça dépend de notre glucose qu'on absorbe. Donc, c'est les aliments à charge glycémique basse, ceux qui font peu monter la glycémie, donc qui vont peu faire sécréter d'insuline ou d'IGF-1, qui sont des facteurs de croissance. Mais moins je vais faire sécréter, produire ces facteurs de croissance-là, mieux je me porterai. Donc, c'est le lot des aliments à charge glycémique. On se bat contre le glucose aujourd'hui, mais c'est vrai que soit le glucose, je le brûle et il n'y a pas de problème, ou soit je ne le brûle pas et ça peut poser problème avec notamment l'émergence de facteurs de croissance à cause de ça. Donc, on doit baisser les charges glycémiques de nos repas autant que possible en fonction de nos besoins. Et après, il y a l'activité physique aussi, parce que l'activité physique est anti-inflammatoire. Elle est anti-prolé, elle régule aussi, on fait une régulation hormonale grâce à l'activité physique. Donc, du coup, il est assez important de le sport ou l'activité physique et la lutte contre la sédentarité, plus l'alimentation oméga 3 et charge glycémique basse, c'est déjà fondamental. Et à côté de ça, il y a des compléments nutritionnels que l'on peut prendre de manière individualisée. Un complément, c'est-à-dire une molécule, un principe actif ou une association de principes actifs, ce qui est souvent mieux parce qu'on va pouvoir jouer y compris sur l'antiprolifération comme sur l'anti-inflammation. Et là, les grands classiques, c'est le palmier de Floride, le palmier nain, le sopalmetto. Il existe des médicaments qui ont été faits avec ce palmier nain, comme le tadénan par exemple, et il est utilisé dans de nombreux compléments nutritionnels pour pouvoir lutter. Donc principalement, il a un effet antiproliférateur et aussi il a une action anti-inflammatoire. Et ce palmier nain, ce sopalmetto, on voit que quand on fait des essais sur ces produits-là, on voit qu'il y a une amélioration des symptômes de l'hypertrophie bénigne de la prostate, donc de tout ce qu'on a vu au niveau urinaire, est souvent augmenté dans des proportions assez intéressantes. À côté de ce palmier nain, dans des choses très connues, il y a le prunier d'Afrique, qui est utilisé aussi, et qui lui aussi, comme le palmier nain, est anti-inflammatoire et anti-prolifératif, et a montré une efficacité clinique. Quand je dis une efficacité clinique, ça veut dire une efficacité dans des études bien faites, double aveugle contre placebo, une personne prend rien, le CEPA et l'autre prendre le produit actif, et on voit après un certain temps c'est l'amélioration clinique des symptômes ou biologiques. Donc ça, c'est important, c'est pas fait sur un animal, c'est fait sur un homme, un test clinique. Et donc le prunier d'Afrique a montré cliniquement un intérêt, comme la racine d'ortie aussi. Par exemple, la racine d'ortie a un effet antiprolifératif et aussi anti-inflammatoire. Et le petit dernier qu'on voit poindre, qu'on voyait moins classiquement dans les pharmacopées usuelles de plein de pays à travers le monde, c'est l'épilobe. L'épilobe est très intéressante parce que c'est peu utilisé et pourtant c'est peut-être celui qui marche le mieux. C'est des extraits d'épilobe qui vont eux aussi avoir un effet très antiprolifératif, donc ils permettent de diminuer la croissance, le volume de la prostate, et surtout aussi très anti-inflammatoire. Et si à ça on rajoute un petit peu de vitamine D, comme on a vu son effet inhibiteur 2, le zinc qui est très important pour la régulation de la fabrication de la testostérone par exemple, quand on rajoute tout ça, on peut faire des compléments qui ont vraiment une efficacité tout à fait pertinente et prouvée cliniquement pour pouvoir accompagner les gens dans au moins en tout cas arrêter de faire grossir cette prostate, et on peut même faire diminuer un petit peu le volume de la prostate et donc diminuer les symptômes bien sûr.
Ah bah voilà des bonnes nouvelles. Et alors quels sont les aliments à proscrire absolument ?
Alors, je dirais qu'on ne doit rien proscrire véritablement. À partir du moment où on mange très diversifié, de manière raisonnable chaque fois, je ne pense pas qu'il faut proscrire quoi que ce soit. Beaucoup de gens mettent en avant les produits laitiers, comme souvent, c'est des gros accusés. Le lait, c'est pour les bébés, c'est pas pour les grands. Non, il y a des pays à travers le monde, heureusement qu'ils ont le lait, sinon ils seraient tous morts de faim. Donc, ils ont des problèmes au Kenya ou quoi, et ils consomment du lait tout au long de leur vie, sous forme de fromage. C'est vrai que c'est fait dans leur tradition, c'est pas du lait consommé comme tel, mais le lait a la réputation d'avoir des facteurs de croissance importants, parce qu'on dit toujours que le lait de la vache, principalement, il fait prendre 100 kilos au veau la première année, alors qu'un petit humain, il double son poids par rapport à la naissance la première année, et c'est tout. Donc on a moins de facteurs de croissance dans le lait maternel que dans le lait de vache. Et d'autres disent, mais oui, mais le lait de la brebis ou de la chèvre, c'est peu de facteurs de croissance. On voit bien qu'en une année, ils prennent pas 100 kilos comme le petit veau. Donc, du coup, cela, on peut les donner. Or, c'est les grands débats d'école. Moi, je pense que si vous prenez un petit peu de lait de vache sous forme d'un bon comté, et après que vous prenez un petit peu de chèvre ou de brebis ou tout ça, et que vous êtes diversifié dans vos apports de produits laitiers, il n'y a pas de problème. Mmh. C'est qu'une histoire de... Si vous êtes monomaniaque, vous buvez 2 litres de lait de vache comme ça, je pense que c'est pas un bon comportement d'adulte.
Quelque chose me dit que vous êtes un mangeur de fromage.
J'adore le fromage, c'est une culture française et on a montré qu'il y a tellement de bienfaits dans le fromage. Après, le seul vrai problème, c'est les protéines de lait pour lesquelles certains pourraient être vraiment allergique, et là c'est important, donc bien sûr, parce que c'est ce qu'on appelle les IgE, il va y avoir des réactions de type œdème de Quink, mais bien souvent on dit qu'on est non tolérant, c'est-à-dire donc hypersensible à, et donc c'est pro-inflammatoire, c'est vrai sans l'être, il y a d'autres raisons d'avoir de l'inflammation. Je crois que si on est modéré, si on mange avec plaisir et avec grande diversité ces sources de produits laitiers, bien souvent il n'y a pas de problème. On dit que c'est pro-inflammatoire, ça l'est probablement chez ceux qui sont des très gros consommateurs. Oui. Mais un peu, à mon sens, ne pose pas de problème.
Comme
on
prend
du bon, comme toujours.
Comme on dit, et on le dit souvent sur les traits radio, je crois que c'est moi qui ai inventé cette phrase, hein, d'ailleurs, je ne veux pas m'attribuer des mérites, voilà, mais ça c'est moi, hein. C'est la dose qui fait le poison.
Mais je crois que c'est vrai, parce que je te rassure, c'est pas toi qui a dit ça.
Si, c'est moi.
Ça vient de loin, c'est un vieux monsieur barbu à la barbe blanche grecque.
Arrêtez.
Tu as perdu, mais bon, c'est pas grave.
Arrêtez.
Mais tu y as pensé, c'est bien. Et non, mais c'est tout à fait vrai. Je crois que c'est la dose qui fait le poison, certainement. Et c'est vrai pour le médicament et c'est vrai pour l'alimentation aussi, quand on est exagéré sur un produit. Et je crois qu'il faut rester raisonnable. On est dans un monde de peur aujourd'hui, on est un monde anxiogène. Il y en a qui font leur business avec la peur, il y en a qui se nourrissent de la peur. Je crois qu'il faut rester raisonnable, il faut essayer de regarder ce monde merveilleux, parce qu'il peut être merveilleux, et l'alimentation peut être merveilleuse aussi, si on sait choisir, si on sait voilà, avoir du bon sens vis-à-vis de ça.
Évidemment.
Je crois que ce qu'on a perdu, c'est le bon sens, et c'est notre société de consommation qui nous a fait, et donc c'est vrai que malheureusement, on peut trouver de tout dans nos hypermarchés, ou un peu moins sur nos marchés, heureusement, mais c'est à nous d'être d'abord des consommateurs avertis et de bien choisir quand on peut, bien sûr.
Évidemment, donc vous savez que Paracels m'a tout pris.
Ah, donc, c'est Paracels, ça y est, t'as trouvé.
Il m'a tout pris.
Je vous recommande, il y a un bouquin sur Paracels, sur sa vie, si vous avez l'occasion, je ne me rappelle plus le titre, là c'est Paracels, je crois d'ailleurs, ça s'appelle. C'est exceptionnel. Et vous voyez que ces gens, à l'époque, étaient des érudits assez incroyables. Ils connaissaient tout. Ils faisaient la théologie, de la philosophie, de la médecine, de la botanique. C'était incroyable. Et ils ont passé leur vie à apprendre. Et c'était des puits de science et de sagesse, bien souvent. Donc, c'est merveilleux.
Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, docteur, pour tous ces... conseils, ces éclairages qui sont très précieux pour toute la communauté. Donc merci beaucoup, émission à retrouver à partir de 18h ce dimanche sur nutriradio.fr dans la partie médias et podcasts et sur toutes les plateformes de streaming audio. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir docteur.
Merci jeune homme.
C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutriradio.
Objectif physionutrition. Jacques Bassier sur Nutriradio.